Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon nouveau livre en collaboration avec Michel Lurquin. Ce livre s'intitule « Pour en finir avec le paranormal » et il est publié aux éditions Jourdan. Et il sortira le 28 juin, donc très bientôt, dans 2 semaines, au moment où j'enregistre cet épisode. Vous pouvez déjà évidemment le précommander sur tous les sites internet adéquats. Pour en finir avec les miracles bibliques. Les textes fondateurs des religions nous racontent tous des miracles. On apprend dans l'Ancien Testament que Moïse aurait ouvert la mer Rouge en 2 pour laisser passer le peuple juif poursuivi par les Égyptiens. Jésus serait ressuscité d'entre les morts pour les chrétiens. L'ange Djibril aurait dicté le Coran au prophète Mahomet dans la religion musulmane. Bouddha aurait quant à lui marché dès sa naissance, etc. Les miracles sont des violations des lois de la nature provoquées par l'intervention directe d'un être surnaturel. Il faut distinguer ici le surnaturel du paranormal. Ce dernier est un concept fourre-tout. Le psychologue James E. Alcock en propose néanmoins la définition suivante dans Parapsychology, Science or Magic. Un phénomène paranormal est un phénomène 1. Qui est inexplicable dans les termes de la science actuelle. 2. Qui est explicable uniquement par une révision majeure des principes de base de la science. Ou 3. Qui n'est pas compatible avec la norme des perceptions, des croyances et des attentes à propos de la réalité. En définitive, on tend à mettre sous cette étiquette toutes sortes d'anomalies. Le concept n'apparaît qu'après la naissance de la science moderne. Celle-ci définit à un moment donné de l'histoire ce que serait la normalité, et le paranormal est un ensemble de phénomènes qui ne sont pas compatibles avec cette définition. Le surnaturel désigne pour sa part une interaction entre la nature et une surnature. En effet, s'il n'existe dans le matérialisme qu'une seule réalité, à l'inverse, les religions postulent généralement l'existence d'un monde spirituel. Celui-ci serait peuplé d'un ou des dieux, et par des êtres comme des anges, des démons ou encore des esprits. Ces entités pourraient parfois interagir avec le plan matériel, et ces intrusions constituent le surnaturel. D'un point de vue scientifique, le problème fondamental est que les miracles sont par définition des événements uniques. Le Nouveau Testament nous raconte par exemple que Jésus aurait marché sur l'eau de la mer. Il n'est en pratique pas possible de réaliser des expériences pour tester cela. L'approche expérimentale nécessite nécessairement de pouvoir répéter les résultats pour s'assurer qu'ils existent réellement et qu'ils sont corrects. Que peut-on alors dire rationnellement des miracles? Il va falloir utiliser les outils de l'histoire et de la philosophie. Les zététiciens utilisent parfois l'aphorisme « des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires ». Il s'agit en réalité d'une reformulation contemporaine d'une maxime proposée originellement par David Hume, 1711-1776. Le philosophe des Lumières a en effet écrit dans son ouvrage « L'enquête sur l'entendement humain » « Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il prétend établir, et même dans ce cas, il y a une destruction réciproque des arguments, et c'est seulement l'argument supérieur qui nous donne une assurance adaptée à ce degré de force qui demeure, déduction faite de la force de l'argument inférieur. » L'idée de David Hume est que nous avons tous l'expérience commune qu'il y a des gens qui se trompent et d'autres qui essayent de nous tromper. Par contre, nous n'avons pas vu directement les miracles des textes fondateurs des religions. Nous n'avons accès qu'à des récits, c'est-à-dire des histoires de quelque chose d'incroyable qui se serait prétendument déroulé il y a bien longtemps de cela. La question devient par conséquent, devez-vous croire ce que l'on vous raconte alors que cela va à l'encontre de votre expérience commune? Vous observez par exemple tous les jours que les êtres humains qui meurent ne reviennent pas à la vie quelques jours plus tard. Or la Bible nous dit que Jésus a ressuscité d'entre les morts. L'argument est qu'il est toujours plus rationnel de croire qu'il y a quelqu'un qui se trompe ou qui cherche à vous tromper que d'accepter l'existence d'un miracle. Cette maxime de David Hume peut se formaliser dans le cadre du bayésianisme. Cette épistémologie considère que toutes nos croyances et savoirs ont une valeur probabiliste entre 0, la certitude que c'est faux, et 1, la certitude que c'est vrai. Lorsque nous sommes exposés à une nouvelle information, celle-ci influence notre plausibilité antérieure, c'est-à-dire le pourcentage que nous avons attribué à celle-ci jusqu'à maintenant. On peut ensuite imaginer un curseur qui bouge sur ces valeurs. Ce curseur de vraisemblance, comme l'appellent les zététiciens, sera basé sur l'expérience commune, mais aussi sur ce que nous ont appris nos parents, ce que nous entendons dans les médias, par nos connaissances scientifiques ou encore nos positions philosophiques. Nous n'avons par exemple pas l'habitude de voir les gens s'envoler dans le ciel. Le curseur de vraisemblance pour cette idée est par conséquent très très proche de zéro lorsque l'on est athée. Vous lisez alors le passage de l'Ascension. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, dans la traduction œcuménique de la Bible. Les mathématiques nous disent qu'une nouvelle information ne fait pas beaucoup bouger le curseur de vraisemblance. Par conséquent, si on est athée, cette nouvelle information devrait faire bouger légèrement le curseur, mais comme la plausibilité antérieure que nous attribuons à cet événement est proche de zéro, cela ne sera pas suffisant pour nous faire accepter l'idée que ce miracle s'est réellement produit. Les choses seront bien évidemment différentes si on est théiste. Les explications littéralistes. Certains scientifiques qui travaillent dans les sciences dites dures vont parfois proposer des explications littéralistes pour les miracles. Mentionnons par exemple l'idée que l'on pourrait expliquer la traversée de la mer Rouge dans l'Ancien Testament par un phénomène naturel. Un vent fort aurait soufflé et la mer, en s'écartant, aurait laissé apparaître une langue de terre, créant ainsi un passage. De façon superficielle, cela sonne comme une explication rationnelle. Mais en réalité, les archéologues athées considèrent que l'histoire de la fuite de l'Égypte par les Juifs est un mythe sans fondement historique. Il n'y a dès lors pas à expliquer cet événement par un phénomène naturel. Un autre exemple est l'explication proposée pour l'étoile de Bethléem par le physicien Auguste Mommsen, célèbre pour avoir défendu l'hypothèse extraterrestre pour la vague belge d'OVNI. Il avance dans une publication sur son site web que ce que les rois mages ont vu était en réalité une comète. Tout comme dans l'exemple précédent de la traversée de la mer Rouge, l'approche méthodologique consiste ici à prendre le texte pour argent comptant, c'est-à-dire comme s'il rendait compte d'un événement historique. La question devient alors, comment sait-on qu'un événement s'est réellement déroulé ou n'est pas juste une fiction ? Même si on en trouve encore à l'heure actuelle dans les médias et sur Internet, ce genre d'explication était plutôt typique des rationalistes de la fin du XIXe siècle. La vie de Jésus d'Ernest Renan, 1823-1892, fut à l'époque un best-seller. Le philosophe considère que les événements racontés dans le Nouveau Testament sont globalement exacts et que Jésus a été un thaumaturge malgré lui. À partir de ce présupposé, il considère que les miracles sont généralement dus à ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. Il écrit « Presque tous les miracles que Jésus crut exécuter paraissent avoir été des miracles de guérison. La médecine était à cette époque en Judée ce qu'elle est aujourd'hui en Orient, c'est-à-dire nullement scientifique, absolument livrée à l'inspiration individuelle. La médecine scientifique, fondée depuis 5 siècles par la Grèce, était à l'époque de Jésus à peu près inconnue aux Juifs de Palestine. Dans un tel état de connaissance, la présence d'un homme supérieur traitant le malade avec douceur et lui donnant par quelques signes sensibles l'assurance de son rétablissement est souvent un remède décisif. Qui oserait dire que, dans beaucoup de cas, et en dehors des lésions tout à fait caractérisées, le contact d'une personne exquise ne vaut pas les ressources de la pharmacie. Le plaisir de la voir guérie, elle donne ce qu'elle peut, un sourire, une espérance, et cela n'est pas vain. » Ernest Renan explique aussi que pour lui, les personnes possédées que rencontre Jésus souffraient en réalité de troubles psychiatriques, entre autres l'épilepsie. L'approche d'Ernest Renan est une forme d'évémérisme. Évémère était un penseur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui considérait que les récits des dieux et demi-dieux de la mythologie pouvaient s'expliquer par des personnages historiques. Zeus ou Hercule auraient réellement existé, mais le récit de leur vie aurait été avec le temps fortement déformé, embelli et exagéré. On retrouve à l'heure actuelle une idée similaire dans l'ufologie, la théorie des anciens astronautes ou néo-évémérisme. Celle-ci explique les religions non pas avec des personnages historiques, mais avec des visiteurs extraterrestres. Un exemple classique est la vision du chariot de Dieu par le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Je regardais, un vent de tempête venait du nord, une grande nuée et un feu fulgurant, et autour une clarté, en son milieu comme un étincellement de vermeil au milieu du feu. En son milieu, la ressemblance de quatre êtres vivants. Tel était leur aspect. Ils ressemblaient à des hommes, chacun avait quatre visages et chacun d'eux quatre ailes. Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 6. La description continue encore sur plusieurs versets. Cette histoire a été réinterprétée par les ufologues comme une rencontre rapprochée du troisième type. On aurait droit ici à la description d'un vaisseau spatial et de ses occupants. La Bible est pourtant claire sur le sujet, il s'agit d'une vision mystique. Ézéchiel est un prophète après tout. On y retrouve d'ailleurs bien des éléments culturels et symboliques de son temps, aussi étrange le récit puisse nous paraître aujourd'hui. L'erreur méthodologique commise par les ufologues est qu'ils projettent une croyance contemporaine, le soucoupisme, sur ce texte de l'Ancien Testament. La dent d'or. Le problème fondamental de l'évémérisme est qu'il échoue souvent à imaginer que l'on soit juste devant une pure fiction. Essayer d'expliquer les miracles des textes fondateurs des religions comme s'il s'agissait réellement d'événements historiques est un peu comme un zoologiste qui parle de la biologie du monstre du Loch Ness, ou encore un physicien qui tente d'expliquer la propulsion des ovnis dans notre atmosphère par la magnéto-hydrodynamique. Un des principes de base de la zététique est qu'avant de chercher à expliquer quelque chose, il faut s'assurer qu'il y a réellement quelque chose à expliquer. L'idée n'est pas neuve. Bernard Le Bouillet de Fontenelle, 1657-1757, écrivait déjà en 1687, dans son ouvrage « Histoire des oracles », assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Et il raconte pour illustrer ce problème l'histoire de la dent d'or. En 1593, le bruit courut que les dents étaient tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans. Il lui en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l'université de Helmstadt, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Ingolstetetus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or, et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui avait été dit de la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examiné, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l'orfèvre. Tout le monde sera d'accord pour dire que les aventures de Poséidon ou d'Ulysse sont des mythes. Les spécialistes athées considèrent que bien des récits de l'Ancien Testament sont du même acabit, même si cela peut encore faire parfois débat avec les théologiens. Les historiens n'ont par exemple pas trouvé de preuve que le peuple hébreu a réellement été esclave en Égypte pour construire les pyramides. Les archéologues n'ont de plus pas découvert d'éléments physiques en faveur de l'hypothèse que les Juifs auraient réellement marché 40 ans dans le désert, ce qui aurait forcément dû laisser bien des traces. Il s'agit bien plutôt d'un récit qui s'est développé pour expliquer des noms de lieux. Pour donner un exemple de ce processus folklorique, le nom populaire flamand de la ville d'Anvers en Belgique était Antwerpen, ce qui est aujourd'hui devenu Antwerpen en néerlandais. Cela signifie « j'ai de la main ou des mains », de « hand » pour main et « werpen » pour jeter. La légende raconte qu'un géant, Druon Antigoun, collectait un droit de passage prohibitif sur les bateaux qui passaient sur l'Escaut. Il coupait sans pitié la main de ceux qui refusaient de payer. Mais Silvius Brabo, un soldat romain, le tua, lui coupa à son tour la main et la jeta dans la rivière. Les spécialistes pensent que le nom provient en réalité originellement du latin Antwerpia, qui indique une zone de sédimentation dans la courbe intérieure d'une rivière. D'autres hypothèses pour l'origine linguistique existent, mais ce qui importe ici est que ce n'est pas la légende du géant Druon Antigone qui a fait que la ville se nomme Anvers. C'est le folklore qui a été inventé a posteriori pour donner du sens à l'étymologie populaire. Certains historiens font l'hypothèse que le même processus est à l'origine de l'Exode, un récit qui permet d'expliquer l'importance religieuse de bien des lieux géographiques, particulièrement le mont Sinaï. Si ces événements ne se sont pas produits, que ce sont juste des histoires qui ont commencé à être racontées durant l'exil à Babylone, il n'est pas nécessaire de proposer des explications scientifiques littéralistes pour rendre compte des 10 plaies ou de la traversée de la mer Rouge. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec le Nouveau Testament. Le consensus actuel chez les historiens et les théologiens est qu'il y a effectivement eu un Jésus historique. Le débat porte sur ce que l'on peut dire sur lui avec certitude. Il existe un continuum dans la littérature avec d'un côté des apologètes qui considèrent que le récit biblique est très proche d'événements historiques qui se seraient effectivement déroulés. De l'autre, des athées qui pensent que l'on sait dire bien des choses à propos d'un Jésus historique, mais qu'évidemment la résurrection et d'autres miracles ne se sont pas produits, jusqu'à des érudits plus sceptiques, comme par exemple Robert M. Price, qui considèrent qu'en réalité on ne sait pratiquement rien dire à propos de lui. Du côté des chrétiens, le philosophe William Lane Craig affirme par exemple qu'il y aurait de solides raisons de croire que la résurrection est un événement historique, mais ses arguments sont en définitive peu convaincants. Le problème est que la rédaction des évangiles est tardive, plusieurs décennies après la vie supposée du personnage historique. On ne sait de plus rien des auteurs des évangiles. Les écrits étaient au départ anonymes et la tradition leur a ensuite attribué des noms. On n'est clairement pas ici devant des témoignages de première main, même si les fondamentalistes continuent à défendre cette position extrême. Au mieux, on peut arguer qu'il y a eu une tradition orale chez les premiers chrétiens qui aurait été mise par écrit à un moment donné par différents individus. On peut dans ce contexte se demander à quel point une culture orale de ce type peut préserver des récits fiables d'événements historiques pendant des décennies. Songez à quel point le message de bouche à oreille se transforme rapidement dans un jeu de téléphone sans fil. Les évangélistes font de plus preuve de créativité littéraire lorsqu'ils mettent par écrit cette tradition orale, sans compter qu'ils se basent les uns sur les autres. Les premiers écrits sur Jésus sont en réalité les lettres de Paul de Tarse, alors que celles-ci sont placées vers la fin du Nouveau Testament. Et encore, beaucoup d'érudits considèrent que la plupart sont des apocryphes, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réellement de lui. Seules 7 sont considérées authentiques par la plupart des chercheurs. Ensuite, la théorie la plus communément admise chez les historiens est que l'évangile de Marc et la source Q seraient ensuite apparus. Cette dernière serait un ensemble de paraboles et d'enseignements de Jésus que l'on aurait aujourd'hui perdu. Ce livre, s'il a effectivement existé, n'aurait donc pas contenu de récit de la vie d'un personnage historique. L'auteur anonyme de l'évangile de Marc n'avait pas le document Q sous les yeux lorsqu'il a écrit son texte, mais peut-être juste certaines des lettres de Paul. Les auteurs des évangiles Matthieu et Luc avaient pour leur part accès à Marc, à la source Q et à des lettres de Paul. Par conséquent, non seulement nous ne sommes pas devant des témoins directs, mais en plus nous ne sommes pas devant des récits indépendants des uns des autres. Du coup, si on ajoute les évangiles apocryphes, évangiles selon Thomas, évangiles de Pierre, proto-évangiles de Jacques, etc., on pourrait être devant des sortes de fanfictions qui se construiraient les unes sur les autres, un peu comme les légendes arthuriennes au Moyen-Âge. Si cela pose clairement problème pour les sceptiques, les chrétiens argumentent que malgré l'interdépendance des récits, nous sommes néanmoins devant différentes sources. Chacun des auteurs retravaille l'histoire de Jésus pour défendre une position théologique bien précise. Il ne s'agit pas d'historiens modernes qui essayent d'être objectifs. Le Jésus présenté n'est même pas cohérent. On le présente parfois comme un rebelle qui va renverser les Romains. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive, dans Matthieu chapitre 10, verset 34. D'autres fois comme un pacifiste. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre, dans Matthieu chapitre 5, verset 39. On insiste d'un côté sur le fait qu'il est un thaumaturge, parfois sur autre chose. Chaque lecteur peut pratiquement trouver le Jésus qui l'intéresse en cherchant bien. Bien entendu, face à cela, les théologiens s'efforcent d'harmoniser toutes ces incohérences afin de présenter un Jésus unifié. Mais est-ce vraiment convaincant? Sur base de tout cela, et d'autres arguments dont nous n'avons pas le temps de discuter ici, certains auteurs vont même jusqu'à défendre l'hypothèse qu'il n'y aurait pas eu de Jésus historique. Cela s'appelle la thèse mythiste. L'historien Richard Carrier propose qu'il y aurait d'abord eu une croyance dans un Jésus qui ne serait qu'un être céleste. Il s'agirait du Jésus-Christ dont parle Paul dans les Épîtres. Par la suite, les évangélistes, à commencer par l'auteur de Marc, auraient créé des fictions qui placeraient cette entité surnaturelle dans le plan matériel. Soyons parfaitement clairs, la thèse mythiste est extrêmement minoritaire chez les spécialistes du sujet. Il semble que penser qu'il y a effectivement eu un Jésus historique à l'origine du christianisme reste plus plausible, même si on ne sait pratiquement rien dire de lui avec certitude. Néanmoins, quand on a tous ces débats en tête, expliquer les miracles de Jésus prend une forme beaucoup plus littéraire. Puisqu'on est largement devant des œuvres de fiction, pourquoi les évangélistes insistent-ils sur ces événements surnaturels? Pour donner un seul exemple, le fait que Jésus marche sur les eaux de la mer serait potentiellement un écho du fait que Moïse aurait sauvé le peuple juif en ouvrant les eaux de la mer Rouge. Au cinéma, on parlera aujourd'hui d'Easter eggs, des œufs de Pâques en anglais. Tout comme le spectateur reconnaît les clins d'yeux à E.T. l'extraterrestre dans la première saison de la série télévisée Stranger Things, de même les lecteurs du Nouveau Testament reconnaîtraient les reprises de l'Ancien Testament qui connectent la figure de Jésus avec les personnages qui l'ont précédé. Dans ce contexte, les explications à la Ernest Renan semblent finalement peu nécessaires. À noter que des arguments similaires peuvent être faits à propos de bien des personnages de l'Antiquité. Les meilleures biographies d'Alexandre le Grand datent, par exemple, d'au moins 4 siècles après sa mort, mais se basent sur des textes antérieurs que l'on a perdus. Comme Socrate n'a rien écrit lui-même, tout ce que l'on sait de lui provient d'autres auteurs, et ainsi de suite. En appliquant des méthodologies sévères, on finit par douter de tout et sombrer dans des formes extrêmes de scepticisme. Il y a bien entendu eu des prétentions miraculeuses à travers les siècles depuis l'Antiquité. Mentionnons en vrac les possessions démoniaques, les guérisons de Lourdes, les visions mariales, la liquéfaction du sang de Saint-Janvier, les effets de la prière d'intercession, etc. On est finalement dans ces cas-là devant des phénomènes paranormaux pour lesquels l'explication proposée est surnaturelle. Il faudrait les examiner un par un pour voir quelles hypothèses scientifiques ont été explorées pour en rendre compte. Mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Il est aussi important de souligner que tous les chrétiens ne croient pas aux miracles bibliques de manière littéraliste. Bien des choses dont nous avons discuté sont enseignées dans les facultés de théologie. Parmi les protestants libéraux, on trouve par exemple des pasteurs qui pensent que la résurrection de Jésus est une métaphore qui illustre le fait que les chrétiens doivent renaître en des personnes nouvelles. Bien entendu, cette position peut aussi être jugée blasphématoire par des personnes appartenant à d'autres tendances. Mais il ne faut pas mettre tous les chrétiens dans le même sac, comme s'ils croyaient tous la même chose. Pour aller plus loin, je vous recommande l'ouvrage en anglais « Proving History, Bayes' Theorem and the Quest for the Historical Jesus » de Richard Carrier, et en français « L'étoile de Bethléem, la lumière guide-t-elle toujours nos pas » de Tim Trachet. Vous intéressez au phénomène OVNI? Vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI, mais vous cherchez un groupe dans lequel vous investir. Vous habitez dans le nord-est de la France. Eh bien, ce groupe existe. Il s'agit du CNEGU, le Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU, ou Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques. C'était Jean-Michel Abrassard pour Scepticisme Scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
For Sam, the evening deepened to darkness as he stood at the haven. And as he looked at the grey sea, He saw only a shadow on the waters that was soon lost in the west. There still he stood, far into the night, hearing only the sigh and murmur of the waves on the shores of Middle-earth. And the sound of them sank deep into his heart. Beside him stood Merry and Pippin, and they were silent.
Lay down your sweet and weary head. Night is falling, you have come to journey's end. Sleep now and dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears have passed away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see? On the horizon, light to the white girl's call across the sea. Into the world of the night, your shadows falling out of memory and time.